Voici le journal de la rédaction présenté par Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benoît Bouscarel et bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, une semaine politique décisive qui démarre en Italie. On doit savoir dans la journée quand la motion de censure de la Ligue sera examinée au Sénat. Le gouvernement est au bord de l'éclatement. Explication de Marie Duhamel à Rome.
Nous irons également à Hong Kong dans ce journal avec de nouvelles manifestations pro-démocratie. Hier, la répression policière est encore montée en puissance, nous dira sur place Angélique Forget.
En France, les gilets jaunes qui tentent d'exister en plein été pour améliorer leur image. Certains d'entre eux ont décidé d'enlever leur gilet. Reportage de Sarah Ders en Seine-et-Marne. L'utilisation des drones peut parfois conduire à des dérives. À Istres, dans les Bouches-du-Rhône, la police municipale soupçonnait d'utiliser ces appareils pour faire de la surveillance en tout genre. On verra ça avec Maxime Fayol.
Et puis une association anti-trottinettes électriques est reçue ce matin au ministère des Transports à Paris pour réclamer une législation plus contraignante. Reportage à suivre d'Hugo Charpentier.
Le risque de voir l'Italie entraînée en dehors de l'Union européenne si Matteo Salvini arrive seul au pouvoir. C'est l'inquiétude exprimée ce matin par l'ancien chef du gouvernement italien, Enrico Letta. Gouverner seul, c'est effectivement l'objectif de Matteo Salvini. Le chef de la Ligue d'extrême droite souhaite des élections anticipées le plus rapidement possible. Son parti a déposé une motion de censure au Sénat contre le président du Conseil. On devrait savoir dans la journée quand aura lieu le vote. Précision à Rome de Marie Duhamel.
Matteo Salvini exige un vote d'ici jeudi. Il a littéralement intimé à ses élus l'ordre de ramener leurs fesses à Rome. Ils y sont convoqués ce soir pour mettre la pression sur ceux à qui revient réellement de fixer le calendrier de la crise, les chefs des groupes parlementaires au Sénat. Ces derniers ont prévu de se retrouver en fin de journée pour déterminer la date à laquelle Giuseppe Conte affrontera le vote de défiance. Le président du Conseil prépare déjà son discours, mais espère que la motion ne sera pas votée tout de suite. Il voudrait participer au G7 de Biarritz et désigner le commissaire italien à Bruxelles, sans avoir été précédemment désavoué. Comme Giuseppe Conte, les élus du mouvement 5 étoiles, réunis à Rome ce matin, cherchent à gagner du temps. Eux qui ont tout à perdre rêvent, puisque le Parlement va rouvrir, de procéder à une ultime réforme supprimant 345 sièges parlementaires, une promesse de campagne, leur barreau d'honneur. Mais s'y attendaient-ils ? Hier, l'ancien président du Conseil du Parti démocrate, Matteo Renzi, est sorti du silence pour défendre avec eux ce projet de loi, faisant comprendre à tous et contre l'avis officiel de son parti qu'il était prêt à s'allier au mouvement 5 étoiles. Car en cas de révocation du gouvernement, le président de la République poussera sans doute à la formation d'un exécutif de transition. Sergio Mattarella est notoirement opposé à des législatives anticipées à l'automne, c'est-à-dire en pleine discussion sur le budget, dans un contexte déjà tendu avec Bruxelles.
Marie Duhamel, correspondante à Rome de France Culture. Après à peine quelques jours en mer Méditerranée, l'Océan Viking, le bateau de l'organisation humanitaire SOS Méditerranée, a presque déjà dépassé ses capacité d'accueil. 251 migrants ont été secourus et sont donc maintenant à bord, essentiellement des ressortissants soudanais récupérés au large des côtes libyennes.
Des policiers omniprésents et des manifestants toujours aussi déterminés à Hong Kong.
Nouvelle journée de mobilisation hier dans plusieurs quartiers de Hong Kong avec des heurts qui ont éclaté encore une fois entre la police et les manifestants pro-démocratie qui étaient plusieurs milliers. Un face-à-face extrêmement tendu, marqué par une répression policière clairement de plus en plus forte. Le récit à Hong Kong de notre correspondante Angélique Forget.
Au cocktail Molotov et aux jets de briques lancés par les manifestants, les policiers ont répondu par une violence sans précédent depuis le début de la contestation. Les images qui circulent sont particulièrement violentes et tournent en boucle sur les réseaux sociaux ici à Hong Kong. On y voit des policiers tirer de nombreuses cartouches de gaz lacrymogène, y compris à l'intérieur du métro, puis charger, matraques à la main, les manifestants qui battaient en retraite. On voit aussi un policier tirer à bout portant des balles en caoutchouc dans le dos des manifestants. Les forces de l'ordre ont également procédé à des arrestations, plusieurs dizaines au total, parfois très musclées. Sur une vidéo, on voit notamment un jeune homme maintenu au sol, le visage contre le bitume dans une mare de sang. Il implore les policiers, mes dents sont en train de tomber, je suis désolé, vous m'avez interpellé, arrêtez d'appuyer. D'après les autorités hongkongaises, un policier aussi aurait été blessé, brûlé par un cocktail Molotov.
Aux États-Unis, Jeffrey Epstein a-t-il été tué ou bien s'est-il donné la mort? L'homme d'affaires réputé proche des puissants a été retrouvé mort ce week-end dans sa cellule de prison à New York. Il n'était plus sous surveillance depuis quelques jours après pourtant une première tentative de suicide. De quoi alimenter les théories du complot sur les réseaux sociaux défendues ce week-end par Donald Trump sur Twitter, le président américain qui a implicitement mis en cause le camp démocrate. On attend maintenant le résultat de l'autopsie qui a été pratiquée hier. La piste terroriste privilégiée par la police norvégienne après la fusillade de ce week-end dans un centre islamique de la banlieue d'Oslo qui a fait un blessé léger. Le tireur âgé d'une vingtaine d'années est présenté par la police comme étant proche de l'extrême droite. Les mesures de sécurité ont été renforcées en Norvège autour des célébrations musulmanes de l'Aïd el-Adha. Les élections primaires et régionales en Argentine, considérées comme un test avant la présidentielle du mois d'octobre, elles ont été remportées cette nuit par l'opposition et son leader, le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez. Le chef de l'État, le libéral Mauricio Macri, a reconnu un revers électoral. En France, pas facile de poursuivre le mouvement en plein été alors que de nombreux Français sont en vacances. Les Gilets jaunes tentent de maintenir leur mobilisation. Ce week-end, par exemple, à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, ils étaient quelques-uns sur les ronds-points et sur les marchés. Et comme l'accueil n'est pas toujours très favorable, eh bien certains manifestants ont tenté un nouveau mode d'action sans le gilet. Le reportage de Sarah Ders.
Au bord de ce grand rond-point symbolique, plusieurs gilets jaunes. Christine, aujourd'hui, est venue sans.
Ah, c'est parce que moi, je l'ai oublié, c'est tout. Moi, c'est, je le mets tout en main, j'ai du jaune, j'ai du jaune. Mais j'y suis tellement dans mon cœur que bon, peu importe, c'est pas grave.
Pourtant, pour Angélique, venir sans son gilet, c'est plus efficace.
Je ne le mets jamais parce que je suis une citoyenne en colère. Quand les gens me demandent, mais pourquoi vous êtes qui, pour quel parti vous faites ça? On n'est pas d'un parti, on est des citoyens en colère et gilets jaunes. Mais c'est que des actions citoyennes. Le problème, c'est que le gilet jaune a été tellement stigmatisé qu'aujourd'hui, l'image de mettre le gilet jaune sur le dos alors qu'on est un citoyen en colère, y a beaucoup de gens qui refusent.
Pour que les gens rejoignent le mouvement, Johnny a lui aussi un peu changé sa stratégie.
Je ne le mets plus. Parce que quand vous avez un gilet jaune, une fois sur deux, vous n'arrivez pas à la manifestation, vous êtes en garde à vue.
Car pour lui, être moins visible, c'est un moyen plus simple d'engager le dialogue avec les autres citoyens pour mener à bien ces combats.
Les pompiers, il y a les agriculteurs, même pour ADP, nous, comme on est beaucoup dans la pétition ADP pour les aéroports, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est exactement, pour faire voir. On fait les marchés, les supermarchés, on en parle au travail, on en parle un peu partout pour faire signer le maximum de gens pour le référendum.
Le référendum d'initiative partagée mobilise les derniers citoyens gilets jaunes. En une heure sur le rond-point, les militants ont déjà recueilli 2 signatures. Samedi dernier, ils ont aussi organisé une marche sans gilet pour Steve Maya Canisso, le jeune homme qui a perdu la vie à la suite d'une opération policière controversée.
Reportage en Seine-et-Marne de Sarah Ders. Le chômage ne baisse pas, mais l'économie française continue de créer de l'emploi. Selon l'INSEE, 62 100 emplois ont été créés dans le secteur privé au cours du deuxième semestre 2019. Ce chiffre qui est en constante augmentation depuis 5 ans.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Sébastien Berriot. Interrogation à Istres dans les Bouches-du-Rhône sur l'utilisation de drones par les policiers municipaux.
Oui, Istres, première ville de France à avoir équipé sa police de drones, 2 appareils censés aider les forces de l'ordre à lutter contre les risques d'incendie ou encore à faire face à la petite délinquance. Mais y a-t-il un risque de dérive? Oui, selon une association, la Quadrature du Net, qui a eu accès à des documents fournis par la ville. La conclusion, Maxime Fayol, c'est que les drones servent essentiellement à faire de la surveillance en tout genre.
Sur 81 heures d'utilisation l'an passé, les drones d'Istres ont servi à surveiller des manifestations pendant 59 heures. Une utilisation bien loin du but initial, dénonce la Quadrature du Net qui a obtenu ces chiffres. Une surveillance bien trop large, estime leur juriste Martin Drago.
Ce qu'il faut voir, c'est tout ce qu'on peut faire avec cette vidéosurveillance par drone. En fait, on a une image très très large de la ville. Et on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font de ces images. Est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce qu'ils appliquent, par exemple, une vidéo-analyse intelligente? Donc ça va être détecter des mouvements de foule, détecter des objets abandonnés. Ou est-ce que, encore plus grave, ils vont faire par exemple, et ça se développe aujourd'hui en France, de la reconnaissance faciale.
La mairie d'Istres n'a pas répondu à nos demandes d'interview, mais Thierry Mort, le fondateur de Cosmopter, la société qui a vendu les appareils et formé les agents municipaux, rappelle qu'il existe des limites à l'utilisation de ces drones destinés à de la prévention.
On n'a pas le droit d'enregistrer sur la voie publique des images, sauf à avoir des autorisations particulières définies par le préfet. Comme il est strictement interdit aussi de survoler du public, les drones sont dans ce qu'on appelle dans des cônes de sécurité, avec un périmètre parfaitement défini sur lequel il est impossible aux drones de sortir. Donc, sachant que la reconnaissance faciale est strictement impossible par le biais du drone tel qu'il a été conçu.
De son côté, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plaide pour un encadrement plus précis de l'utilisation des drones par la police. La loi actuelle est jugée inadaptée pour un drone très mobile et qui pose donc des questions sur le respect de la vie privée.
Merci Maxime Fayolle. La ministre de la Santé Agnès Buzyn se dit opposée à la proposition de loi de plusieurs députés LREM qui veulent assouplir la loi Evin. L'objectif et d'autoriser des ventes ponctuelles d'alcool dans les stades, un projet qui est dénoncé aussi par les addictologues. À Paris et dans les grandes villes de France, les trottinettes électriques provoquent de plus en plus d'accidents, un phénomène nouveau qui dérange les piétons, notamment qui peuvent être renversés par une trottinette ou encore tout simplement être gênés sur le trottoir. Alors à Paris, une association anti-trottinettes électriques a décidé de se mobiliser. Elle doit être reçue ce matin au ministère des Transports pour demander une législation plus contraignante. Reportage dans la capitale d'Hugo Charpentier.
C'est parce que son épouse a été victime d'un accident qu'Arnaud Kielbaza a décidé d'agir.
Mon épouse, qui portait notre petit bébé sur sa poitrine, a été percutée par un conducteur de trottinette qui venait en sens interdit dans une rue et qui lui a rentré dedans.
Un accident sans gravité qui va servir de déclic. Une poignée de Parisiens fonde alors l'association APACOVI, acronyme qui signifie Association Philanthropique Action Contre l'Anarchie Urbaine, vecteur d'incivilité. Ça peut faire sourire, mais c'est très sérieux.
L'association est très sérieuse, effectivement. Elle vise à donner un cadre aux victimes des trottinettes de conseils assurantiels et juridiques.
L'objectif est aussi de récolter la parole de victimes et visiblement elles sont nombreuses.
On doit être aux alentours de 5-10 témoignages par jour de personnes du troisième âge, d'handicapés, de gens qui ont des problèmes de vue. Beaucoup de témoignages de gens qui ont été touchés dans leur chair à la suite d'un accident provoqué par une trottinette.
Un travail minutieux pour alerter les élus de la nécessité d'une législation plus contraignante. En juin dernier, la ville de Paris décide ainsi d'interdire la circulation et le stationnement des trottinettes électriques sur les trottoirs, un dispositif jugé inefficace.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les mesures ne sont pas respectées du tout. La situation n'a pas évolué.
Même constat pour la nouvelle législation portée par Elisabeth Borne. Dès le mois prochain, les conducteurs de trottinettes devront rouler sur les pistes cyclables et ne pas dépasser les 25 km/h. Mais Arnaud Kielbaza préfère s'inspirer de l'Allemagne et de sa nouvelle réglementation beaucoup plus stricte.
Ils ont obligé les opérateurs de trottinettes à avoir des assurances. Ça, pour nous, c'est le béaba. Dans un second temps, ils ont obligé l'immatriculation de toutes les trottinettes. Et ça change beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une trottinette qui brûle un feu rouge, pour la verbaliser, c'est impossible.
L'association souhaite aussi la réalisation d'une étude d'impact. Ça serait une grande première puisque ce travail n'a encore jamais été fait en France.
Et on parlait de l'Allemagne et en Espagne aussi, les trottinettes électriques en libre service existent depuis 2016. Dans le journal de 9h, tout à l'heure, on verra l'exemple de Madrid où des règles très strictes régissent la circulation donc des trottinettes. Au Portugal, une grève qui pourrait perturber les vacances et l'activité touristique. En plein été, les transporteurs de carburant ont cessé leur activité. La grève pourrait durer plusieurs jours. C'est la question des salaires qui est au cœur du conflit. À Lisbonne, Olivier Bonamici.
C'était en avril dernier, 3 jours de grève. Des transporteurs de carburant avaient mis le pays en pénurie d'essence. À l'époque, un accord avait été trouvé concernant une hausse de leur salaire. Seulement voilà, les chauffeurs veulent d'autres garanties pour les 2 années à venir. Il y a environ 1 mois après le préavis des syndicats, le gouvernement avait averti la population. Du coup, les automobilistes ont eu le temps de faire le plein. Mais toute la question est de savoir combien de temps va durer la grève et les conséquences que cela va avoir en pleine période de départ et de retour de vacances. Pour l'instant, le gouvernement a l'opinion publique de son côté qui ne comprend pas les revendications des grévistes. A priori, les services minimums devraient être assurés, mais rien ne permet d'affirmer que la situation ne va pas s'empirer dans les jours qui viennent.
Le temps de ce début de semaine, de la pluie qui sera présente sur une large partie du pays aujourd'hui, sauf sur l'Est et la Franche-Comté, avec des orages possibles aussi cet après-midi sur la Bretagne, le sud des Alpes et le Massif central. Les températures ce matin, 16 degrés à Tarbes, 19 à Lille et 25 à Nîmes.